Débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les autorités françaises affirment avoir déjoué une soixantaine d'attentats dans le pays depuis 2013. Et pourtant, il reste manifestement des trous dans le filet et donc un danger persistant. La commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'attentat de la préfecture de police débutait ses auditions aujourd'hui avec le préfet de police en personne, Didier Lallement. Le but, c'est de comprendre comment celui qui a fini par tuer 4 fonctionnaires dans l'enceinte même de la préfecture a pu se radicaliser sans être repéré, tout en conservant son habilitation secret défense pour traiter des données sensibles. Les services français sont-ils dépassés ou démunis face à la radicalisation? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Béatrice Brugère, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes ancienne juge antiterroriste et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat SNM-FO. Et Marc Ecker, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des questions de sécurité et de terrorisme à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI, rédacteur en chef de la revue Politique étrangère et auteur de l'étude de l'IFRI, les djihadistes de France face à la justice. Si la police ne parvient pas à voir ce qui se passe dans son sein des seins, comment est-elle en mesure de repérer, contrôler et déjouer ce qui se passe hors des murs? C'est une question qui fait un peu peur et qui n'est pas agréable, mais passer l'émotion de l'attaque, sans doute faut-il la poser calmement, mais en voyant les réponses en face. La lutte contre la radicalisation n'est pas une affaire simple. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait repérer à tous les coups une personne radicalisée et ou qui s'apprête à passer à l'acte, ou est-ce qu'on est encore en train d'apprendre et de tâtonner? Béatrice Brugère.
Mais écoutez, alors sur ce qui s'est passé à la préfecture de police, hein, puisque vous avez commencé par ça, on a une commission d'enquête, hein, qui a ouvert aujourd'hui, et je pense que on en saura un petit peu plus, et ça sera extrêmement intéressant. Et moi, je me réjouis de cette commission d'enquête, puisque elle va mettre le point sur votre deuxième question, qui est celui des critères d'évaluation, parce que en effet, c'est le sujet principal à chaque fois qu'il y a un attentat, et c'est le sujet d'avenir, puisque il faut aussi se prémunir des futurs attentats. La radicalisation est un sujet qui est déjà plus tabou, mais qui n'est pas pour autant résolu. On en parle beaucoup, on en a beaucoup peut-être trop parlé ou mal parlé, et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, il y a quand même un débat sur le sens que l'on met sous ces mots. Je ne sais pas si ce débat doit avoir lieu ce soir, mais en tout cas, j'ai en face à moi quelqu'un qui a travaillé aussi sur ces sujets-là, et je pense qu'il Monsieur Ecker nous expliquera ce qu'il en pense. Mais la difficulté, c'est que c'est un concept qui est assez polymorphe. Si on avait quelque chose de très précis déjà sur lequel se raccrocher, on aurait déjà beaucoup plus avancé, à mon avis, sur la détection. Ceci dit, ça ne veut pas dire que l'on n'a rien. Mais on voit très bien que la détection a un double enjeu. D'abord, celui évidemment de se mettre d'accord sur les critères, mais ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'il suffit pas de dire, et ça a été aussi le deuxième sujet qui surviendra dans la commission d'enquête, c'est qu'une fois qu'on a un doute ou qu'on a un soupçon, on voit très bien que le partage de l'information n'est pas non plus quelque chose de facile, et que c'est là aussi que se joue, l'enjeu de sécurité.
Marc Ecker, est-ce que je repose la question à vous, est-ce qu'on est toujours en train d'apprendre, de tâtonner, ou est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de signes de radicalisation que de personnes radicalisées, quelque part?
Alors déjà, je vais répondre à votre première interrogation d'ouverture, c'est-à-dire que je pense que les services ne sont ni dépassés ni démunis, première chose. Vous avez employé un mot important qui est le mot « calmement ». Je crois qu'effectivement, il faut un peu reprendre le temps long. Alors, dans notre société de Twitter et de chaînes d'infos en continu,
c'est pas toujours facile.
Il y a une commission d'enquête qui démarre et une enquête judiciaire en parallèle. D'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un magistrat sur la différence entre une enquête judiciaire et une enquête politique. En tout cas, je pense qu'évidemment, on va pas vous révéler les conclusions de l'enquête avant qu'elles soient menées. Pour ce qui est de la radicalisation, alors effectivement, c'est une problématique compliquée et il y a des oppositions entre chercheurs sur ce qu'est la radicalisation. l'organisation. Il y a une définition quand même qui est généralement donnée, qui est que c'est un processus qui conduit une personne à soutenir de plus en plus l'extrémisme violent. Et on a généralement deux éléments qui entrent en ligne de compte. Un élément qui est l'idéologie, d'une part, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette dimension idéologique, et d'autre part, la dimension de violence. Une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il n'est pas simple de déterminer des critères. Alors on tâtonne toujours, effectivement, depuis plusieurs années. Ces critères et ces grilles d'évaluation sont revus régulièrement dans différentes administrations, avec quand même une administration interministérielle qui essaye de piloter un peu ces réflexions, qui est le comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il y a un fichier également des personnes radicalisées qui a été créé en 2015, le fameux FSPRT. Et ce qui est intéressant, notamment dans ce fichier, c'est que on voit que depuis 2015, vous avez grosso modo 20 000 personnes qui ont été versées à ce fichier. Et en même temps, à peu près la moitié seulement des fiches qui sont considérées comme actives. Ça veut dire qu'on a clôturé des milliers de fiches. Ce qui veut dire que, effectivement, on a un problème d'identification des personnes et qu'il y a beaucoup de faux positifs. Mmh. Et à l'inverse, il y a des personnes qui passent à l'acte et qui n'avaient pas été détectées.
Alors, ce fichier, justement, on va en parler, si vous voulez bien, Béatrice Brugère. Le FSPRT, c'est le fichier des signalements pour la prévention et de la radicalisation à caractère terroriste. Donc, il y a actuellement 20 000 personnes qui ont été inscrites dessus. Donc, 4 à 5 000 sont considérées comme faisant partie du haut du spectre, c'est-à-dire particulièrement surveillées, voire dangereuses. Comment il est constitué, ce fichier? Comment est-ce qu'un individu se retrouve dessus?
Ça, je peux répondre, si
oui,
vous voulez.
Oui, oui, parce que...
Alors, allez-y.
Oui,
il y a différents modes, en fait, pour être inscrit. Alors, le fameux mode qui avait été très médiatisé au départ, c'était le numéro vert. Numéro vert, et en fait, il y a aussi des possibilités de signalement par mail, avec un centre d'appel, donc qui reçoit ces appels.
C'est-à-dire que c'est un proche, un voisin qui...
Ça peut être un proche, un voisin qui a un doute,
un
et qui va appeler. Voilà. Alors, évidemment, la personne n'est pas systématiquement inscrite sur le fichier. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui, souvent, sont des policiers réservistes, qui vont décrocher, avoir une discussion un peu poussée avec l'individu qui signale pour voir si, effectivement, il faut donner suite ou pas. Donc ça, c'est une première voie d'inscription sur le fichier. Il y a une deuxième voie qui est les services de renseignement eux-mêmes qui vont donner leur cible et les verser à ce fichier. Et puis vous avez une troisième voie qui est en fait une multiplicité de référents radicalisation qui ont été créés dans plusieurs administrations. Et donc si vous avez un enseignant ou un médecin dans un hôpital public ou autre qui a un doute, il peut faire remonter un référent radicalisation et ensuite ça va être remonté en préfecture via ce qu'on appelle les états-majors de sécurité. Donc vous avez trois voies pour l'inscription dans ce fichier.
Mmh. Béatrice Bugère, je sens bien fait d'impatience pour compléter en tout cas.
Non, alors c'est tout à fait ça, il y a trois voies en effet. Alors le problème de ce fichier, parce qu'il y en a d'autres aussi, c'est exactement ce que vous avez dit, qu'est-ce qui est vraiment sérieux, puisqu'on a un chiffre qui est très impressionnant, qu'on nous ressort toujours d'ailleurs dans certaines études, où à chaque fois qu'il y a un attentat, attention, il y a plus de 20 000 personnes dans ce fichier. La réalité, c'est que on a eu un effet un peu massif après l'attentat, parce que ça a été créé notamment avec le numéro vert, où tout le monde a un petit peu donné de l'information. Et on retombe toujours sur les mêmes problématiques, c'est-à-dire que c'est comme quand le président de la République dit il faut rentrer dans une société de vigilance, c'est que l'information qui peut être celle de votre voisin ou de n'importe qui téléphone, c'est pas du renseignement, parce que le renseignement, c'est de l'information qui est traitée, c'est-à-dire qui est vérifiée et qui est utile pour être ensuite partagée. Donc le problème de ce fichier qui semble gigantesque et qui pourtant n'inclut pas sans doute toutes les personnes qui devraient y être, je le dis aussi, inclut sans doute aussi des personnes qui n'ont peut-être pas vraiment une raison d'être. Donc pour les services de renseignement, pour être pratique, puisque c'est aussi votre question, ce fichier est un outil utile, mais qui peut aussi noyer les services de renseignement. Parce qu'on ne va pas surveiller 20 000 personnes et tout le monde n'y est pas. Donc la difficulté, elle est aussi là. C'est que le fichier, c'est un faux ami, si je puis parler ainsi.
Je complète aussi.
Oui.
C'est-à-dire, évidemment, cette problématique a aussi été prise en compte par l'administration, puisque l'administration s'est rendue compte qu'il y avait un flot massif et qu'il était difficile de traiter ce flot d'une manière purement sécuritaire et qu'il y avait des gens qui étaient plutôt haut de spectre et des gens plutôt bas de spectre. Et donc, on a mis en place des groupes d'évaluation départementaux avec différents acteurs sécuritaires, mais aussi judiciaires, les GED. Et lors de ces groupes, une évaluation est faite et les individus sont du coup orientés soit vers un traitement plutôt sécuritaire avec une surveillance par différents services, là encore en fonction de leur dangerosité, la DGSI ayant vraiment le haut du spectre, soit vers un traitement plus social qui peut même être fait par des associations. Ça, c'est pour les personnes de bas de spectre. Mmh.
20 000 personnes sur le fichier, c'est beaucoup et ça semble compliqué de les surveiller, évidemment, jour et nuit. C'est même, on va le dire très clairement, pas possible. Hein. On peut pas mettre 24 heures sur 24 un policier derrière chacune de ces personnes. Est-ce que, et vous disiez, Marc Ecker, que les services ne sont pas démunis, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit problème de moyens?
Mais... Effectivement, il est impossible de suivre toutes ces personnes. Et je ne suis pas sûr que ce soit souhaitable, d'ailleurs. Là, après, il y a effectivement ce qu'il est possible de faire d'un point de vue financier, il y a ce qu'il est possible de faire d'un point de vue humain, et puis il y a ce qu'il est souhaitable de faire dans une société démocratique. Mais les moyens, ils ont été renforcés aussi, il ne faut pas oublier ça. Là, il y a un document très utile, qui est le rapport de la délégation parlementaire au renseignement, qui donne des chiffres précis. Les chiffres précis sont les suivants. C'est de 2014 à 2017, on est passé d'environ 15 000 à 18 000 agents participant à la politique publique du renseignement en France. Donc une hausse de 20%. Et la DGSI a particulièrement bénéficié de cette hausse. Donc les moyens, ils ont été renforcés. On ne peut pas non plus les renforcer indéfiniment.
Oui, Béatrice Bougère.
En fait, c'est une course de vitesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on renforce, mais j'allais dire toujours un peu après coup. C'est-à-dire qu'on a on n'a pas le temps d'avance, on a le temps d'après. Donc la difficulté, elle est là. Premièrement, même si je suis tout à fait d'accord, qu'on ne peut pas nier que les moyens ont été renforcés, mais c'est toujours par adaptation et pas par anticipation, premièrement. Et deuxièmement, la menace a aussi changé de nature, il faut quand même le rappeler, elle est devenue davantage endogène, c'est-à-dire sur notre territoire. Et à la fois, ça peut être un atout et un désavantage, c'est-à-dire qu'un atout parce que sur notre territoire, on est présent, un désavantage parce qu'en fait, il y a une forme de contamination et de rapidité aussi, parfois de la propagation par divers canaux d'ailleurs, qui sont aujourd'hui plus ou moins bien identifiés, qui fait que, je répondrai aussi à votre question, ils sont peut-être pas démunis, mais ils sont aussi aussi en partie quand même dépassé, il faut quand même l'admettre, enfin dépassé, c'est pas négatif.
Dépassé par le nombre, surtout.
Mais oui, il y a un problème quand même.
Par l'ampleur.
Alors, il y a un problème de quantité, mais il y a aussi un problème de qualité de l'évaluation, parce que il y a cette problématique, c'est que même si vous mettez 20 000 personnes dans un fichier, même si vous en mettez 40 000, allez, 60 000, de toute façon, on ne pourra jamais tous les surveiller. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est une course sans fin.
Pour moi, le discours... à tenir, une fois qu'on a fait ce constat de course sans fin, c'est qu'il est très important de renforcer la résilience de la population, la résilience du personnel politique également, parce qu'on sait qu'il va y avoir des attentats dans les années à venir. Ça, je suis désolé, je ne suis pas devin, mais mes recherches me conduisent à dire... Donc ce qu'on peut exiger des services, c'est qu'ils empêchent les grosses attaques, les attaques coordonnées, les attaques qui laissent des traces, mais on ne va pas pouvoir empêcher des individus isolés de prendre un couteau et d'aller poignarder des gens dans la rue. Et je pense vraiment qu'il est important de travailler sur la résilience à ce niveau-là, et qu'on n'ait pas à chaque fois les mêmes débats, les mêmes polémiques, les mêmes demandes de démission de ministres, parce que sinon ce sera vraiment une course sans fin, et on risque en plus de surréagir, et c'est toujours le danger en matière de terrorisme, c'est pas le terrorisme qui nous tue, c'est la surréaction.
La résilience, une société de vigilance, c'est ce que le président de la République appelle de ses voeux, et c'est ce qu'il appelait de ses voeux lors de la cérémonie à la préfecture de police. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit risque de surveillance généralisée, Béatrice Brugère? Non, est-ce qu'il n'y a pas ce numéro vert, là, de se dire, j'ai un problème de voisinage, je vais dénoncer mon voisin?
Non, je ne pense pas qu'il y ait un risque de surveillance généralisée parce qu'on n'en a pas les moyens, mais il y a un risque de délation à côté de la plaque ou de ce qu'on peut appeler de mauvais renseignements ou de choses qui partent dans tous les sens. Moi, je voudrais juste revenir sur, si vous permettez, sur la thématique de la résilience. On a une société qui est particulièrement résiliente, hein, parce qu'on est quand même très éprouvé en termes d'attentats, et c'est pas fini, là-dessus, je crois que...
250 morts depuis 4 ans.
Voilà. Oui, mais on a une multitude de faits qui reviennent en permanence. Je sais pas jusqu'à quand cette résilience tiendra, et en effet, il faut y travailler. Ceci dit, on peut pas se contenter de dire, il y a de la résilience. Je pense que l'État aussi peut travailler en amont. Il y a encore des choses à faire, il y a encore beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, cette commission d'enquête va peut-être démontrer quand même des dysfonctionnements. Donc on est sur des choses aussi qu'on peut peut-être améliorer. Mais la réalité, c'est qu'en fait, une fois que les personnes sont engagées, radicalisées, enfin peu importe le terme, il est très difficile de les en sortir. Donc l'État doit travailler pour éviter en amont cette radicalisation. Et là, il y a des actions très positives à faire, sur lesquelles on peut continuer à avancer, qui sont tous les canaux de propagation. Et ils sont multiples, que ce soit la prison, religion, que ça soit les réseaux, que ça soit encore certaines mosquées, hein, comme on l'a vu sur certains attentats, etc., etc. Les clubs de sport, etc. Donc, on a encore du travail. Je pense que voilà.
On a encore du travail. On a encore du travail, mais il y a eu énormément quand même de choses faites depuis 2014-2015. L'anticipation n'était pas là, ça c'est clair. Il y a eu une succession de plans de prévention de la radicalisation qui touchent différents domaines, y compris les clubs de sport et autres. Donc effectivement, on peut toujours faire mieux, on peut toujours faire plus, mais le message que je veux faire passer, c'est qu'on peut avoir le système le meilleur au monde en matière de lutte contre le terrorisme, on n'empêchera pas le type d'attaque.
Il n'y a pas
d'attaque.
De risque zéro.
Bien sûr.
Est-ce que on nous parle souvent de signaux faibles pour essayer de voir une personne en train de basculer? C'est quoi un signal faible, Béatrice Brugère?
Bah, c'est une question, je crois, non, mais objectivement.
C'est votre question de départ, en fait. Comment on traite l'information?
Oui. Enfin, voilà. Alors moi, je suis pas dans les services de renseignement. Hein. D'abord, voilà, un signal faible. Je ne sais pas, parce qu'on a vu la difficulté du ministre de l'Intérieur lui-même, si je puis me permettre, quand même lors de son audition après l'attentat de la préfecture de police, pour donner les signaux qu'il estimait être des signaux importants et qui peuvent être mis en difficulté, quelque chose de rigoriste, etc. Moi, ce que je voudrais simplement dire, c'est que la radicalisation, c'est pas le passage à l'acte. La radicalisation, on peut tout à fait adhérer à une idéologie violente, quelle qu'elle soit, et pas pour autant passer à l'acte et devenir terroriste. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que il faut pas tout mélanger. Vous pouvez avoir plein de signaux de gens qui vous semblent bizarres, pour autant ils seront jamais terroristes. Et vous pouvez avoir des personnes qui n'ont aucune manifestation qui attire votre attention et demain commettre un attentat terroriste. Donc, ne nous focalisons pas obligatoirement là-dessus. Moi, personnellement, je suis pas capable de vous donner une litanie de signaux faibles. Je pense que c'est toute une analyse contextuelle, un ensemble, qui fait qu'à un moment donné, on peut, pour les services de renseignement, se dire qu'il y a un danger.
Généralement, ce qui est mis en avant, quand même, pour donner une indication aux auditeurs, ce qui est mis en avant, c'est le comportement de rupture. C'est-à-dire, à partir du moment où la personne change complètement, change d'environnement social. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, il faut faire une analyse beaucoup plus précise.
Bien sûr,
c'est ça. Même des sites qui essayent d'orienter, notamment le fameux site Stop Djihadisme qui a été beaucoup critiqué, qui avait publié une première liste de signes en 2015 qui avait été même raillé sur les réseaux sociaux.
C'est vrai, la première.
Et cette liste a été révisée, donc il y a quand même un travail qui a été fait pour essayer de recadrer les choses. Mais encore une fois, on n'arrivera pas à un outil scientifiquement pur à ce niveau-là.
Non, mais parce que s'il n'y a pas de profil, s'il n'y a pas de profil type, et je crois que c'est quand même ce que vous défendez, en tout cas dans ce que vous avez écrit, et je suis d'accord avec vous. Par contre, il n'y a peut-être pas des profils types, mais il y a des parcours que l'on peut repérer. Et c'est dans ces parcours que, avec des moments de rupture ou des parcours de délinquance ou où on voit qu'il y a des associations qui se mettent en place, quand je dis associations de personnes, on voit très bien que là, on peut anticiper, et c'est tout le travail des services de renseignement, de détecter ces parcours qui peuvent amener à des passages à l'acte criminel.
Marc Ecker, est-ce que, et ça c'est peut-être une question pour tous les deux, mais on n'a plus beaucoup de temps, donc rapidement, est-ce que les services ont tous les moyens juridiques à leur disposition pour repérer efficacement les personnes radicalisées?
Là, c'est plus une question pour madame le juge.
Allons-y, madame le juge, vous avez
les services de renseignement, il va y avoir une clause de rendez-vous pour évaluer justement si les services de renseignement ont tous les moyens. Ce qui est sûr, c'est qu'on vient de loin et qu'on a beaucoup avancé. On a un outil très intéressant aujourd'hui, qui est le renseignement pénitentiaire, qui est en train de monter en puissance. Il n'est pas tout nouveau, mais en tout cas, il est tout récent dans sa montée en puissance. Je ne sais pas s'ils ont encore tous les moyens, mais en tout cas, la trajectoire est là et les services de renseignement continuent à progresser. Je pense qu'il faudra faire un bilan qui pourra répondre à votre question, parce que c'est eux qui doivent dire s'ils ont tous les moyens pour pouvoir opérer.
Marc Ecker, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Est-ce qu'on peut justement encore rajouter des moyens judiciaires pour
les moyens judiciaires
ou juridiques,
plutôt.
Quand on fait un peu de terrain, on se rend compte qu'il y a rapidement des récriminations qui remontent. Je donne un exemple parce que maintenant il est de notoriété publique, puisqu'on parlait des prisons, dans les quartiers d'évaluation de la radicalisation, on ne peut pas écouter par exemple ce qui se passe dans une cour de promenade. Donc, on va expliquer qu'on analyse le body language par des caméras, mais on n'a pas le son, quoi.
Merci, voilà, merci Marc Ecker. Merci Béatrice Brugère d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Joël Fonferrier. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.
7 milliards de voisins.